Magasin Zinzin, Zinzin, le magasin.
Zinzin, le magasin radiophonique.
Quelques poèmes savoureux ont bercé notre enfance ou notre adolescence. Après les comptines mémorisées à la maternelle et leur caractère ludique, nous avons tous vécu des moments de récitation à l'école primaire. Comme ils étaient stressants, ces instants du par cœur. Nous avions à la fois peur et envie d'être interrogés, mais quelle atmosphère pesante quand il fallait quitter son siège, traverser la salle de classe, monter sur l'estrade et commencer à réciter le texte qu'on avait mis bien du temps à mémoriser et qu'on avait répété 100 fois à la maison. Allait-on être interrogé cette fois-ci? Oublierait-on un mot, une strophe? Y aurait-il un blanc? Est-ce qu'on mettrait le ton aussi bien qu'on le faisait avec grand-mère aux fêtes de Noël? Et le cahier de poésie qu'on tendait à notre maître et dont les illustrations nous avaient pris tant de temps. C'était chaque année le plus beau de mes cahiers d'écolier, un cahier d'art en quelque sorte, des pleins et des déliés les plus appliqués et les dessins dont j'étais si fier. Les crayons de couleur résistaient à l'intrusion des feutres et c'est heureux. Pour les cancres, la séance de poésie n'était pas un moment d'exaltation car elle pouvait tourner au cauchemar avec la fessée comme terrible sanction.
Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tous les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et, malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'abandonne. À cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Moi, j'eus la chance de bien mémoriser et j'adorais cet instant d'expression où les pieds, les alexandrins, les rejets, les liaisons, les vers et leurs lueurs me ravissaient au plus haut point. J'aimais les mots bien plus que les chiffres et je compris que dire était plus jouissif que simplement réciter les tables de multiplication ou le fastidieux résumé de la dernière leçon d'histoire-géographie. La Fontaine et ses fables a toujours remporté un vif succès auprès des jeunes générations. Et je suis sûr que vous en avez appris comme nous tous. Le lion et le rat, le lièvre et la tortue, le loup et l'agneau et leur petite morale nous plaisaient. J'ai choisi de mettre en vitrine aujourd'hui le corbeau et le renard et la cigale et la fourmi, deux incontournables. Vieux souvenirs, n'est-ce pas ? 300 ans et plus et elles sont toujours là, enfouies dans notre mémoire collective.
Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage.
Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage.
Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie.
Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle.
« Je vous paierai, »
lui dit-elle.
« Avant l'août, foi d'animal, intérêt principal. »
La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut.
« Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais. Ne vous déplaise, vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. »
Un joli texte en prose maintenant que vous avez tous lu, écouté ou mémorisé, c'est le texte d'Alphonse Daudet, auteur du 19e et des Lettres de Montmoulin. Je suis certain que cela vous fera plaisir de retrouver la chèvre d'un certain Monsieur Seguin.
Oh, qu'elle était jolie la petite chèvre de Monsieur Seguin. Qu'elle était jolie avec ses yeux doux, sa barbiche de sous-officier. Ses sabots noirs et luisants, ses cornes zébrées et ses longs poils blancs qui lui faisaient une houppelande. C'était presque aussi charmant que le cabri d'Esmeralda. Et puis docile, caressante, se laissant traire sans bouger, sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre.
La poésie à l'école dans les années 80-90 a bien changé. Les enfants, quand j'enseignais, n'avaient pas la boule au ventre comme les aînés. Ils étaient même très impatients de venir dire le texte devant les autres. La séance de poésie avait un aspect théâtral et beaucoup avaient compris que mettre les intonations et faire vivre les mots était la priorité du moment. Je les invitais même à se déplacer, à mimer ou à placer des moments de silence pour mettre en valeur le texte ou les mots. Chacun faisait son spectacle avec plaisir. On applaudissait parfois. Un mot oublié n'avait rien de dramatique et les mots des auteurs étaient vraiment à la fête. « Balade à la lune » d'Alfred de Musset était une de leurs poésies préférées. C'était dans la nuit brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. Lune, quel esprit sombre promène au bout d'un fil, dans l'ombre, ta face et ton profil. Est-ce un verre qui te ronge quand ton disque noirci s'allonge en croissant rétréci? Qui t'avait éborgné l'autre nuit? T'étais-tu cogné à quel cadre pointu? Car tu vins pâle et morne, collé sur mes carreaux, ta corne à travers les barreaux. Et qu'il vente ou qu'il neige, moi-même chaque soir, que fais-je venant ici m'asseoir? Je viens voir à la brune, sur le clocher jauni, la lune, comme un point sur un i. Plus grand, au lycée, qui n'a pas fait connaissance avec les grands auteurs de la littérature française? J'ai toujours dans ma bibliothèque les ouvrages d'école qui lui sont consacrés. La collection des Lagardère et Michard, très riche et très fouillée, nous a permis d'explorer les créations littéraires du XVI, XVII, XVIII, XIX et XXe siècle. Je ne peux résister à vous proposer quelques-unes d'entre elles, les plus célèbres. Voici tout d'abord la poésie de Ronsard qui compare la beauté d'une femme à celle d'une rose qui se fane avec le temps qui passe, inexorable. On est au XVIe siècle.
Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée. Les plis de sa robe pourprée et son teinte au vôtre pareil.
Là, voyez comment peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, là, ses beautés de séchoir. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir.
Donc, si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur la vieillesse fera tenir votre beauté.
Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vépère, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil.
Dans « Demain dès l'aube », poème qui fait partie du recueil « Les Contemplations », écrit en 1856, Victor Hugo écrit comme un narrateur qui tutoie un interlocuteur restant inconnu pour lui raconter à la première personne et au futur de quelle manière il va partir le lendemain dès l'aube, et ce, sans jamais se laisser distraire par son environnement. Il va marcher à travers la campagne pour le rejoindre. De manière inattendue, ce voyage s'avère finalement plus tragique qu'on aurait pu l'imaginer, puisque la fin du poème révèle que cette personne chère à laquelle le narrateur s'adresse et qu'il part retrouver est en fait morte et qu'il se rend dans un cimetière pour fleurir sa tombe. À la lumière des événements qui ont marqué la vie de l'auteur, on comprend que ce poème est autobiographique et que Victor Hugo s'y adresse à sa fille Léopoldine, disparue 4 ans plus tôt.
demain dès l'aube. Ah, l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées. Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées. Triste, et le jour sera pour moi comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers un fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs.
Je vous propose maintenant l'Albatros de Charles Baudelaire, qui est issu du recueil Les Fleurs du Mal, écrit en 1859. C'est un poème puissant qui illustre la condition du poète comparé à l'Albatros majestueux, en vol mais maladroit au sol. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers.
À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons, traîner à côté d'eux.
Ce voyageur ailé, comme il est gauche et vole, lui n'a guère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait.
Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher.
On peut dire une poésie à plusieurs voix, c'est ce que nous fîmes quelquefois avec mes studieux élèves. Dire un poème à 25 voix, c'est possible. Nous nous répartissions les vers, les mots. Un mot seulement, parfois, c'était d'un bel effet et fort ludique. Le texte écrit au tableau vivait joyeusement. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur.
Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur.
Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de coton anglais.
Dans les clapotements furieux
quand avec mes haleurs on finit cet tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Dans les clapotements furieux des marées, moi, l'autre hiver, plus sourd que les cerveaux d'enfants, je courus. Et les péninsules des marées n'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant.
La tempête a béni mes éveils maritimes, plus léger qu'un bouchon,
j'ai dansé sur les flots.
Je fermerai le magasin d'aujourd'hui avec le poème qui m'a peut-être le plus marqué. Je ne sais si vous l'avez déjà rencontré dans votre scolarité studieuse. Ce poème n'est pas particulièrement connu, mais je l'aime bien. J'apprécie son odeur et son évocation des objets qui traversent le temps. C'est la salle à manger de Francis Jammes. Il y a une armoire à peine luisante qui a entendu les voix de mes grand-tantes, qui a entendu la voix de mon grand-père, qui a entendu la voix de mon père. À ses souvenirs, l'armoire est fidèle. On a tort de croire qu'elle ne sait que se taire, car je cause avec elle. Il y a aussi un coucou en bois, je ne sais pourquoi, il n'a plus de voix. Je ne peux pas le lui demander, peut-être bien qu'elle ait cassé la voix qui était dans son ressort, tout bonnement comme celle des morts. Il y a aussi un vieux buffet qui sent la cire, la confiture, la viande, le pain et les poires mûres. C'est un serviteur fidèle qui sait qu'il ne doit rien nous voler. Il est venu chez moi bien des hommes et des femmes qui n'ont pas cru à ces petites âmes. Et je souris que l'on me pense seul vivant, quand un visiteur me dit en entrant « Comment allez-vous, Monsieur Jammes ?»
j'écris une vie pour pouvoir tout changer. Les enfants ont des ailes pour voler, voler, voler. Quand la nuit tombe, qu'ils deviennent colons pour rêver, rêver, rêver. Hey, yeah, yeah. S'enfuir de tout, le crayon sera sacré. Les faits sont issus. Un verre, une rime, les mots s'unissent pour protéger la victime. Il faut ce mot pour pouvoir tout changer. Pour voler, voler, voler. Quand la nuit tombe, qu'ils deviennent colons pour rêver, rêver, rêver.
Bien, il est l'heure de nous quitter. Je vous rappelle que Zinzin, le magasin, c'est tous les samedis à 17h et les dimanches à 16h. Et puis on peut tous les retrouver sur le site rvrradio.fr. Au revoir.
C'était le magasin Zinzin, une émission de Jacques Imang, réalisée par Philippe Fest.
C'est la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse. La voix vous fut connue et chère, mais à présent elle est voilée comme une veuve désolée. Pourtant comme elle est encore fière. Et dans les longs plis de son voile qui palpite aux brises d'automne, cache et montre au cœur qui s'étonne la vérité comme une étoile. Elle dit l'avoir reconnue, que la bonté c'est notre vie, que de la haine et de l'envie rien ne reste, la mort venue. Elle parle aussi de la gloire d'être simple sans plus attendre, et de noces d'or et du tendre bonheur d'une paix sans victoire. Accueillez la voix qui persiste dans son naïf épitalame. Allez, rien n'est meilleur à l'âme que de faire une âme moins triste. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère. Et comme sa morale l'éclaire, écoutez la chanson bien sage. Écoutez la chanson bien douce qui ne pleure que pour vous plaire. Elle est discrète, elle est légère, un frisson d'eau sur de la mousse.